Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici comment Natacha Campouche raconte cette journée du 2 mars 98 qui l'a fait basculer dans une autre vie. À cette époque-là, la petite Natacha habitait avec sa mère un quartier au nord de Vienne, le quartier de Donaustadt. Le matin, elle dit qu'elle s'est réveillée de mauvaise humeur. C'était un lundi et elle venait de passer le week-end chez son père, en Hongrie. Il l'avait ramenée très en retard et sa mère, inquiète et furieuse, lui avait dit quelque chose du genre « Puisque c'est comme ça, t'es pas prête de retourner chez ton père ». Alors elle avait mal dormi et quand elle s'était levée le matin du 2 mars, elle était toujours très fâchée contre sa maman. Depuis la rentrée de Noël, elle avait négocié d'aller toute seule à l'école, à pied. À 10 ans, c'était plus un bébé. Mais en vérité, tous les matins, elle avait la trouille. C'était une petite fille timide, discrète, solidaire. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Elle était mal dans sa peau. À cause de son poids, peut-être. 45 kilos, à 10 ans. On se moquait d'elle. On l'appelait la grosse. C'est pour ça qu'elle n'avait pas confiance en elle. C'est pour ça qu'elle avait peur sur le chemin de l'école. Ce matin-là, elle enfile la robe que sa mère lui a préparée, celle avec le haut en jean et le bas en flanelle grise. En vérité, cette robe, elle la déteste. Dedans, elle se trouve horrible, boudinée. Mais tant pis, elle n'a pas le choix. Elle récupère le goûter sur la table de la cuisine, elle enfile son anorak rouge, elle caresse d'une main les chats de la maison et elle sort de l'appartement sans un mot pour sa mère. Elle est en colère, elle veut marquer le coup. Et pourtant, combien de fois sa mère lui a dit « Il ne faut jamais se séparer fâché, on ne sait pas si on se reverra ». Il est 7h quand elle quitte son immeuble en direction de l'école qui n'est pas très loin à travers les petites rues du quartier. En rentrant dans la rue Melangasse, il y a une fourgonnette blanche. Et à côté, il y a un homme debout de taille moyenne, mince, il est seul. Il semble regarder autour de lui, comme s'il attendait quelque chose. C'est idiot, mais quand elle le voit, Natacha raconte qu'elle a comme une sorte de pressentiment. Si elle pouvait, elle ferait un détour, mais c'est idiot, l'école est juste derrière. La suite, c'est elle qui la raconte le mieux. À l'instant même où le regard baissait, je m'apprêtais à passer devant cet homme. Il m'attrapa par la taille. Il me souleva et me poussa par la portière ouverte à l'intérieur de la fourgonnette. Tout cela se fit d'un seul geste, comme s'il s'était agi d'une chorégraphie que nous aurions répétée ensemble. Ai-je crié? Je ne crois pas. Et pourtant, tout en moi n'était qu'un cri. Il monta en moi et resta coincé dans ma gorge. Un cri muet. Comme dans ces rêves où on veut hurler, mais où on n'arrive pas à émettre le moindre son, dans lesquels on veut courir, mais où les jambes sont comme enfoncées dans le sable mouvant. Son ravisseur n'a aucun mal à la pousser à l'arrière de la camionnette. Elle écrit dans son autobiographie « Je sus que j'avais été enlevé et que j'allais vraisemblablement mourir au moment même où la portière du véhicule se referma derrière moi. » Je vis passer devant moi, dans un scintillement, les images de la messe d'enterrement de Jennifer, violée, assassinée au mois de janvier dans une voiture alors qu'elle avait tenté de s'échapper. Les images de la peur des parents de Carla, victime de sévices sexuels, trouvée inconsciente dans un étang et morte une semaine plus tard. À l'époque, je me suis demandé ce que pouvait être la mort et ce qui lui succédait. Si on avait mal juste avant et si l'on voyait vraiment une lumière. Maintenant, la fourgonnette blanche roule un long moment. Elle s'arrête dans une forêt de pins, comme il en existe beaucoup autour de Vienne. L'homme sort de la voiture et il passe un coup de téléphone. Il semble attendre quelqu'un. Natacha est maintenant persuadée qu'elle va être livrée à un réseau pédophile. Puis le ravisseur remonte dans la fourgonnette. Il dit seulement « Ils ne sont pas venus !» et il se remet en route. Cette fois, ils roulent jusqu'à Strassow, dans la banlieue nord-est de Vienne. Ils arrivent dans un garage. Il lui dit de rester assise, puis il descend chercher une couverture dont il lui couvre la tête. Ensuite, elle sent qu'il la soulève, qu'il la cale sur son épaule. Elle ne voit rien, mais elle sent qu'il descend des marches et qu'il la pose par terre. Il lui enlève la couverture. Il fait noir. Pas longtemps, il allume la lumière, une ampoule vissée sur une douille. Elle est dans une pièce qui fait 5 mètres carrés, pas plus. Dans un coin, il y a une couchette, des toilettes sans couvercle et un lavabo. Il n'y a aucune fenêtre. Natacha se dit qu'à cette heure-ci, sa mère et la police peut-être doivent la chercher partout. Elle n'est pas loin de chez elle. La voiture n'a pas roulé longtemps. On va bien finir par la retrouver. Si elle savait.
Europe 1, on de la traconte.
L'homme qui a enlevé Natacha s'appelle Wolfgang Triklopil. C'est un Autrichien de 36 ans, ingénieur électricien chez Siemens. Ses voisins le décrivent comme un homme très discret. On pourrait même dire distant. Pas de femme, pas d'amis. On ne lui connaît qu'une seule passion, la grosse BMW rouge qu'il a héritée de son père. Tout comme la maison d'ailleurs, c'est son père qui a fait aménager la cave sous la maison. C'était dans les années 70 et à l'origine, ce devait être un abri anti-atomique. La cachette est introuvable, si on ne sait pas qu'elle existe. L'entrée est dissimulée sous une trappe dans le garage, un premier escalier conduit à un passage secret, très étroit, et 2 mètres plus bas se trouve une porte qui, elle, ouvre sur la petite pièce, devenue ce 2 mars 1998, la prison de Natacha Kampusch. Le jour de son enlèvement et de son arrivée dans le cachot, elle est encore pleine d'espoir. Elle supplie son kidnappeur de la laisser partir. Je ne raconterai rien à personne. Si tu me laisses partir maintenant, personne ne remarquera rien. Je dirai juste que j'ai fait une fugue. Si tu ne me gardes pas toute la nuit, il ne t'arrivera rien. Triklopil n'en tient pas compte. La première nuit, Natacha ne ferme pas l'œil. Toute seule, dans cette cave, elle est terrifiée. Alors, et c'est étrange, mais c'est vrai, elle n'attend qu'une seule chose, qu'il revienne, qu'il redescende dans la cave. Moment-là, Wolfgang Triklopil devient le centre de son monde. D'autant que les premiers jours, il est aux petits soins. Il lui apporte des gâteaux qu'elle réclame. Il va même jusqu'à lui lire une histoire et à l'embrasser avant de dormir. Enfin dormir. Un bien grand mot. Quand il quitte la cave, elle est dévorée par l'angoisse. Et de toute façon, impossible de dormir avec le bruit du ventilateur qu'il a installé pour renouveler l'air de la pièce. Le cliquetis de ce ventilateur, ça la rend folle. Elle en fait des crises de nerfs. Elle tape contre les murs avec ses petits poings ou avec ses bouteilles d'eau. Elle espère que quelqu'un va l'entendre. Triklopil la traite comme une toute petite fille. Il lui épluche ses fruits, il lui lave les dents, il lui coupe les ongles. Avec elle, il joue à la poupée. Elle, ce dont elle a peur, c'est d'être seule. Alors elle joue le jeu pour qu'il continue de s'occuper d'elle. Elle raconte. C'est ainsi qu'au bout de quelques jours, je me trouvais dans ma prison à jouer avec mon ravisseur aux dames et aux petits chevaux. La situation me paraissait irréelle. J'avais l'impression d'être dans un film absurde. Personne dans le monde extérieur ne croirait que la victime d'un enlèvement et pu faire des pieds et des mains pour jouer aux petits chevaux avec son kidnappeur. Mais le monde extérieur n'était plus le mien. J'étais un enfant, j'étais seul. Il n'y avait qu'une personne capable de me sauver de cette solitude accablante, celle qui m'y avait plongé. Le temps passe et un jour elle demande à Priclopil un ordinateur. Et il lui en donne un. Pas relié à Internet, évidemment, mais au moins elle peut jouer. Et quelques jours plus tard, il lui apporte quoi se faire à manger, toute seule. Une plaque de cuisson, un petit four, et avec le temps, une table de jardin, deux fauteuils pliables, et un torchon, pour faire office de nappe, et quelques couverts. Elle raconte à ce sujet. Lorsque le ravisseur arrivait avec le repas, je mettais les torchons sur la table, j'y ajoutais deux verres, et je déposais soigneusement les fourchettes à côté des assiettes. Il n'y aurait plus manqué que les serviettes, mais il était trop radin pour ça. Puis nous nous asseyions ensemble à cette table pliante, nous mangions les plats réchauffés et buvions du jus de fruits. Il ne me rationnait pas encore à cette époque-là et j'appréciais de pouvoir boire autant que je le voulais. Une petite forme de vie douillette s'installa et je commençais à me réjouir de ces repas pris en commun. Ils apportaient une coupure dans ma solitude. Ils devinrent importants pour moi. Mais Priclopil ne va pas tarder à changer de visage, jusqu'à en faire sa chose. Par exemple, quand il la menace de la livrer à d'autres hommes, qui eux, dit-il, vont lui faire vraiment mal. Il commence aussi à procéder à un lavage de cerveau. Tes parents ne t'aiment pas, tes parents se fichent de toi, tes parents ont déjà arrêté de te chercher. Et elle se dit, et s'il disait la vérité ? Et maintenant, il utilise le chantage. « Si tu ne fais pas ce que je te dis, je te couperai la lumière. Si tu n'es pas gentil, je vais devoir te ligoter. » Ça fait 2 semaines maintenant qu'il a enlevé Natacha et le protecteur des premiers jours s'est mué en manipulateur, paranoïaque et violent. Le 25 mars, ça fait 3 semaines que Natacha n'a eu aucun contact avec le monde extérieur et c'est l'anniversaire de sa maman. Alors elle est triste, elle est très triste. Elle supplie son kidnappeur de la laisser enregistrer un message pour elle, pour sa mère, sur un magnétophone. Il finit par accepter. Il lui promet d'envoyer la cassette. Évidemment, il ne le fera pas. Au contraire, il lui raconte qu'il a contacté ses parents et qu'ils ne tiennent pas particulièrement à l'avoir libérée. Tes parents ne t'aiment pas, ils ne veulent pas te voir. Ils sont heureux de s'être enfin débarrassés de toi. Pour une petite fille qui manque cruellement de confiance en elle, ces mots sont comme des coups de couteau dans l'estomac. Mais Natacha se mord la lèvre, elle prend sur elle. Non, elle ne peut pas y croire. C'est sûr, ses parents et la police la cherchent partout. Mais alors, que fait la police justement ?
Europe 1, on de la traconte.
Quand Natacha ne rentre pas à la maison le soir du 2 mars, sa mère évidemment prévient immédiatement la police. On la cherche partout, dans les jardins, dans les rues, près de son école et même dans le Danube. Rien. Les médias, eux, continuent pendant quelque temps de diffuser son portrait. La petite fille mesure environ 1m45 pour 45 kilos. Elle est d'assez forte corpulence. Elle a des cheveux châtains lisses, une frange, des yeux bleus. Le jour de sa disparition, elle portait une veste de ski rouge, une robe en jean bleu, des collants bleu clair, des lunettes à verre ovale et un cartable à rabat jaune avec des courroies turquoises. En 4 jours, la police reçoit plus de 130 signalements. Une fois, quelqu'un l'a vu avec sa mère dans un supermarché. Une autre fois, on l'a vu seul sur une aire d'autoroute dans le Tyrol. Évidemment, les parents étant divorcés, une équipe de policiers se rend dans la maison du père en Hongrie, au cas où c'est lui, le père, qui l'aurait enlevé. 6 jours après la disparition, le chef de la police déclare lors d'une conférence de presse « Nous ne baissons pas les bras, l'espoir s'amenuit cependant de revoir l'enfant vivante. » C'est ça l'état d'esprit de la police autrichienne 6 jours après la disparition de Natacha. Elle est probablement morte. Si Natacha avait pu entendre ça de sa cave, elle aurait hurlé « mais non, je suis vivante, venez me chercher, je suis juste à côté ». Et le pire, c'est que la police va passer plusieurs fois tout près d'elle. Un jour, elle va même venir à la maison. Elle va interroger Priclopil. Ce jour-là, les policiers ont enfin décidé d'exploiter un témoignage qu'ils ont pourtant recueilli le lendemain de l'enlèvement. Et là, on n'est plus d'un mois après. Une fillette de 12 ans leur a raconté qu'elle a vu une enfant poussée de force dans une camionnette blanche aux vitres teintées. Les policiers ont identifié 700 fourgonnettes blanches. Et parmi elles, celle de Priclopil. Il aura fallu un peu de temps pour les retrouver toutes, ces camionnettes blanches, mais le vendredi avant Pâques, et Natacha est retenue à ce moment-là depuis 35 jours, les policiers autrichiens se présentent chez Priclopil et ils lui demandent de leur montrer la camionnette. Mais lui, à la télé, il a entendu parler de cet intérêt pour les camionnettes blanches, alors il a chargé sa fourgonnette de gravat et il prétend qu'il s'en sert pour faire des travaux de rénovation. Et le 2 mars, vous étiez où? Vous faisiez quoi? Il n'a pas d'alibi. Il dit qu'il a passé toute la journée seul chez lui. Ok, bah c'est entendu, monsieur. Merci beaucoup et joyeuse Pâques. Et elle est là. Elle est juste en dessous du garage. Et ils s'en vont. Et c'est pas fini. Un jour, la police reçoit un appel téléphonique anonyme, beaucoup plus précis, qui désigne carrément un ingénieur électricien qui serait un original, qui aurait de grosses difficultés relationnelles, qui aurait un penchant sexuel pour les enfants. Et la personne qui a passé cet appel anonyme donne une adresse. Pas un nom, mais une adresse. Exploiter cette piste. Ils n'ont pas exploité ce témoignage. À leur décharge, il faut savoir que dans ce genre d'affaires, des dingos qui racontent n'importe quoi, il y en a toujours beaucoup. Et des radiesthésistes, et des voyants, etc. etc. Constatons juste qu'ils n'ont pas exploité la piste qui pouvait les amener à Natacha. Si elle veut sortir de son cachot, elle devra se débrouiller toute seule.
On de la traconte sur Europe 1.
Pendant ce temps, Natacha a bien compris que si elle veut survivre, il faut qu'elle s'adapte, qu'elle négocie. Elle obtient de Priclopil des produits d'entretien et elle passe désormais des journées à récurer et à astiquer sa cellule. Mais le temps est infiniment long et à l'angoisse de l'enfermement s'ajoute bientôt l'ennui. Elle arrive à convaincre son ravisseur de lui donner une télé et un magnétoscope, et il lui fournit de vieilles cassettes vidéo des séries des années 90. Avec les vidéos et les livres, Priclopil a trouvé un bon moyen de chantage. Elle raconte « Le ravisseur savait à quel point j'avais besoin d'être alimenté en films et en lecture. Il disposait ainsi d'un nouvel instrument de pouvoir. La privation lui permettait de faire pression sur moi. » Le chantage qui tourne bientôt à la torture psychologique, puis à l'esclavage, pur et simple. Il commence par installer une minuterie dans le cachot. Tous les jours, la lumière s'allume à 7 heures. Pendant 13 heures, elle peut cuisiner, lire ou regarder une série. Mais à 20 heures, il coupe l'électricité. Je me retrouvais ainsi d'une seconde à l'autre dans une obscurité totale. Le téléviseur s'arrêtait au milieu d'une série. Je devais poser mon livre sans avoir terminé ma phrase. Et si je n'étais pas déjà couché, je devais revenir à ma chaise longue en tâtonnant à quatre pattes. L'ampoule, le téléviseur, le magnétoscope, la radio, l'ordinateur, la plaque de cuisson, le chauffage, tout ce qui apportait un peu de vie dans mon cachot s'éteignait. Et puis, 6 mois après son enlèvement, Natacha sort enfin de sa cellule. C'est la première fois, ça fait des semaines qu'elle supplie Priclopil de lui laisser prendre un bain en haut, chez lui. Et un soir, il cède. Mais avant, il lui dit, si tu cries, je vais être obligé de faire quelque chose. Tu dois savoir que toutes les portes, toutes les fenêtres sont piégées. Si tu ouvres une fenêtre, tu te fais exploser. Il la fait monter chez lui, il lui fait couler un bain moussant. C'est la première fois. Ça ne sera pas la dernière. À partir de ce moment-là, régulièrement, elle aura le droit de monter dans la maison. La fin de l'année approche. Et Priclopile va exaucer un de ses vœux les plus chers. Elle veut fêter Noël. Il lui offre tout ce qu'elle a demandé. Un petit ordinateur pédagogique, un bloc à dessin, une boîte à crayons et à aquarelle. Il faudra attendre la fin de l'année suivante, une longue année de captivité de plus, pour qu'il accède à un autre de ses grands souhaits. Sortir dehors. C'était une nuit froide et claire de décembre. Quelques jours auparavant déjà, l'homme m'avait communiqué les règles à respecter pour cette sortie. Si tu cries, je te tue. Si tu cours, je te tue. Je tuerai n'importe quelle personne qui t'entendra ou te verra. Si tu commets la bêtise d'attirer l'attention sur toi. C'est pour ça que pendant très longtemps, elle ne va pas oser s'échapper. Quand il me prit fermement par le bras et ouvrit la porte du jardin, un profond sentiment de bonheur s'empara de moi. L'air frais me caressa doucement le visage et les bras, et je sentis l'odeur d'air confiné et corrompu qui s'était fixé dans mon nez se dissiper peu à peu en me libérant l'esprit. En 2000, Natacha a 12 ans. Un matin, elle se réveille et elle découvre des taches de sang dans son pyjama. Ce sont ses premières règles. La voilà donc obligée de demander à Priclopile de lui acheter des serviettes hygiéniques. L'air de rien, cette séquence va tout changer. Et peut-être attendait-il ce moment, depuis le début, qu'elle ne soit plus un enfant, qu'elle soit une femme. Alors elle devient la femme de la maison. Avantage, elle passe plus de temps en haut que dans le cachot. Mais en réalité, elle quitte un enfer pour un autre. Car elle devient son esclave. Elle cuisine, elle nettoie, elle brique dans une maison où les volets sont fermés en permanence pour qu'on ne la voie jamais. Et s'échapper, elle a trop peur. Comme il dit qu'il y ait des alarmes sur les fenêtres. Elle ne veut pas mourir. Et maintenant, voilà qu'il veut rénover la maison. Natacha, qui n'a que 12 ans, va abattre un travail de forçat. Plaque de marbre, sac de ciment, elle porte tout. Elle ne dit rien. Et quand elle fait une bêtise, il lui lance une scie à la figure ou il lui plante un cutter dans le genou. Et parfois, il la frappe. Évidemment, vous vous demandez à ce point de l'histoire s'il l'a violée. Dans son livre, Natacha Campouche est restée un peu évasive sur ce sujet. Elle raconte essentiellement une scène, quand la nuit, en haut, dans sa chambre, il l'attachait à lui, il la saucissonnait avec lui et lui réclamait des câlins. Elle n'en dit pas plus. À 15 ans, la prison psychique qu'il s'est employé à construire autour d'elle est terminée. Natacha ne pense même plus à s'enfuir.
Europe 1, on de la traconte.
Au fil du temps, Natacha Campouche, enlevée à l'âge de 10 ans le 2 mars 98 sur le chemin de l'école, est devenue l'esclave de Wolfgang Priclopil. Elle fait la cuisine, le ménage, les sévices qu'elle subit sont quotidiens. Son ravisseur n'hésite plus à se montrer violent, aussi bien physiquement que psychologiquement. Natacha a 16 ans quand les travaux de la maison sont enfin terminés. Envolée, la petite fille dodue. Elle est maintenant rachitique. Elle mesure 1m57 et pèse 38 kilos. Il faut dire que maintenant, dès qu'elle a l'air trop forte, il la prive de nourriture. Elle n'a plus que la peau sur les os. En vérité, elle est dépressive. Elle passe des heures à pleurer. Elle n'a plus la force de se lever. Et un soir, elle décide d'en finir. Ce n'est pas la première fois qu'elle pense au suicide. À 14 ans, elle a déjà essayé en vain de s'étrangler avec ses vêtements. À 15 ans, elle a voulu s'ouvrir les veines avec une grande aiguille à coudre, mais elle n'a pas supporté la douleur. Ce soir-là, elle décide de s'asphyxier en laissant allumer la plaque de cuisson. Une fumée envahit peu à peu la pièce, et puis sa volonté de vivre la rattrape. Elle éteint la plaque. Si elle ne veut pas mourir, il ne lui reste qu'une solution, s'enfuir. C'est à cette époque que Priclopile l'emmène pour la première fois en dehors de la maison. une courte balade en forêt. Évidemment, il va la tuer si elle dit un mot. Elle ne bronche pas. La deuxième fois, il l'emmène à la droguerie du coin. Pour être certain qu'elle ne parle pas ou ne tente pas de s'échapper, il se colle juste derrière elle. Une vendeuse lui adresse la parole. C'est la première fois depuis 7 ans que quelqu'un d'autre que son ravisseur s'adresse à elle. Natacha raconte dans son livre qu'il ne lui est même pas venu à l'esprit d'appeler à l'aide, qu'elle était tétanisée que Priclopil mette sa menace à exécution et tue la vendeuse à cause d'elle. Un jour, ils sont en voiture tous les deux, quand ils tombent sur un contrôle de police. Natacha n'a qu'un mot à dire pour que son cauchemar s'arrête. Mais là encore, elle n'ose pas. Elle cligne des yeux, elle roule des yeux pour prévenir les policiers. Mais ils ne la regardent même pas. Ils vérifient les papiers de la voiture, ils sont en règle. Ils les laissent repartir. Quelques semaines avant ses 18 ans, il va se passer quelque chose d'incroyable. Ils décident d'emmener Natacha au ski. Si, si, ils vont skier à Oshkar, qui est la station la plus proche de Vienne. Pendant tout le trajet, elle se répète en boucle. Cette fois, je dois réussir à m'échapper. Cette fois, je dois réussir à m'échapper. Cette fois, je dois réussir à m'échapper. Une fois arrivée à la station, elle va aux toilettes. Elle tombe sur une dame blonde. Elle se précipite sur elle. Elle lui dit dans un torrent de paroles qui elle est, le calvaire qu'elle vit depuis des années. La femme lui sourit et elle tourne les talons. C'était une touriste hollandaise. Elle ne parlait pas allemand. Elle n'a rien compris. Et ça y est, elle a franchi le pas. Elle a osé. Elle ne fera plus marche arrière. Le 23 août 2006, vers midi, Priclopil demande à Natacha de passer l'aspirateur dans la fourgonnette blanche, celle qui a servi à l'enlèvement. Elle se met au travail, commence à nettoyer l'intérieur, puis les sièges. Soudain, le téléphone portable de Priclopil sonne. Il n'entend rien à cause du bruit de l'aspirateur. Alors il s'éloigne. C'est maintenant ou jamais. Natacha raconte. J'étais seul. Pour la première fois depuis le début de ma détention, le ravisseur m'avait quitté des yeux. Je restais pétrifié un instant devant la voiture, puis tout alla très vite. Dans un geste d'une violence surhumaine, je m'arrachais au sable mouvant qui paralysait mes jambes. La voix de mon second moi me martelait. Si tu avais été enlevé hier, tu courrais maintenant. Comporte-toi comme si tu ne connaissais pas le ravisseur. C'est un étranger. Cours, 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 bon Dieu, cours! Je laissais tomber l'aspirateur et je me précipitais sur la porte du jardin. Elle était ouverte. Alors Natacha court, elle court, elle s'arrête à la première maison qu'elle croise, elle sonne. Pas de réponse. Elle court jusqu'à la maison d'après, elle aperçoit une vieille dame à la fenêtre, elle frappe, elle appelle doucement, s'il vous plaît, aidez-moi, appelez la police, je suis victime d'un enlèvement. Appelez la police. Méfiante, la dame ne la laisse pas entrer. Elle lui demande d'attendre près de la haie, dans son jardin. Mais quelques minutes plus tard, Natacha voit au loin le gyrophare des policiers qui s'approchent. Ça y est, elle est sauvée. Elle raconte son histoire. Les policiers sont un peu sceptiques, mais ils l'emmènent au commissariat. Et du commissariat à la direction de la police. Et de la direction de la police, dans les bras de sa mère. Elle raconte. Je reconnus ma mère aussitôt. 3096 jours avaient passé depuis cette matinée où j'avais quitté l'appartement sans dire au revoir. 8 Noëls, d'innombrables soirées où j'aurais tant souhaité un mot de sa part, une caresse. Et elle était maintenant devant moi, presque inchangée, comme un rêve qui se matérialise soudain. Ça n'est que le lendemain de son évasion que Natacha pose la question qui la hante depuis qu'elle s'est échappée. À un policier, elle demande. « Et lui ? Vous avez des nouvelles ?»« Oui, » dit le policier avec prudence. « Il est mort. Il s'est donné la mort à 20h59 à la gare de Vienne en se jetant sous un train. »
Europe 1, on de la traconte.
Tout finit donc, et tout commence pour Natacha, car le monde entier s'intéresse à son histoire. Le monde entier veut l'interviewer et on lui propose des sommes astronomiques pour une interview. Le 7 septembre 2006, Natacha Campouche donne une longue interview à la télévision autrichienne. Elle a l'air bien, étonnamment bien.
Hélène Kohl, vous avez regardé l'entretien en intégralité. D'abord Hélène, très simplement, qu'est-ce qui vous a marqué ?
En fait, ce sont les multiples visages de Natacha. D'abord, presque celui, je dirais, d'une madone, les traits très réguliers, les yeux limpides, la tête même parfois un petit peu inclinée sur le côté. C'est une jeune femme qui se présente aussi très forte, intelligente, équilibrée. Elle manie l'ironie et l'humour. Et pourtant, et ça c'est terrifiant, quand elle parle, on ne peut pas s'empêcher d'être saisie par un sentiment désagréable, celui qu'elle ne va pas bien du tout. Elle se confie les yeux fermés pendant de longues minutes, comme si elle avait encore besoin de se sentir enfermée dans son cachot pour parler. Les mains se crispent entre les genoux, on voit que ses ongles rongés deviennent tout blancs. Elle pleure aussi un petit peu. Bref, on le voit, c'est terrifiant, Natacha est dévastée, il y a une tempête dans son crâne. Elle décrit ensuite la terreur de ses premiers moments dans son cachot, elle utilise le mot cachot, le ventilateur qui tournait en permanence et qui lui portait sur les nerfs, les crises de claustrophobie, le cauchemar d'une petite fille qu'on laisse mourir de faim, et puis la vie qui reprend le dessus progressivement. Elle a insisté par exemple pour fêter Noël, Pâques et ses anniversaires. Elle a même reçu des cadeaux de la part de son ravisseur. Il avait mauvaise conscience, ça c'est sûr, dit-elle, et elle affirme n'avoir eu qu'une seule chose en tête pendant ces 8 années, s'enfuir pour avoir une vie normale. Aujourd'hui, elle veut passer son bac et peut-être devenir comédienne.
Il y a autre chose qui surprend tout le monde. Elle n'a ni haine ni agressivité envers son ravisseur. Mieux, elle va sur sa tombe plusieurs fois se recueillir. Et là, tout le monde dit, syndrome de Stockholm, classique, elle s'est entichée de son ravisseur. Mais elle dit plus simplement qu'elle a créé des liens avec cet homme, qu'il a été son unique interlocuteur et son seul point de repère pendant toute sa jeunesse et que tout ça est un peu compliqué. Et puis on ne sait peut-être pas tout, car en 2008, une rumeur dit que Natacha serait tombée enceinte pendant sa captivité. Si vous voulez pousser un peu plus loin, alors lisez, bien entendu, le livre de Natacha Campouche, paru en 2010 chez Jean-Claude Lattès, 3096 jours, et sachez que sort un deuxième livre à l'occasion des 10 ans de son évasion chez le même éditeur.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.